Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Si l'on n'est pas un spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, on peut croire, à tort, que toute la France s'est libérée ou a été libérée avant la fin de l'année 1944. Imaginant que le débarquement de Normandie et la libération de Strasbourg, quelques mois plus tard, ont marqué la fin de la guerre, sur le territoire français tout au moins. À la fin des années 90, Emmanuel Laurentin avait consacré l'histoire en direct aux villes rasées de l'Atlantique en 1945.
L'histoire en direct. La poche de Royan.
Quand le bâtiment va. Une émission du journal Parler présentée par Frédéric Potcher. La présente émission de Quand le bâtiment va sera consacrée au département de Charente-Maritime et principalement à Royan, car vous savez que Royan est une ville qui a été sinistrée à 85%. Elle a été sinistrée dans des conditions particulièrement dramatiques. Vous vous souvenez certainement de la poche de Royan. Elle a terriblement souffert. Elle a, je crois, eu 8500 maisons détruites.
C'était une belle ville avant la guerre, Royan. C'est sûr, il y avait un casino qui devait être quand même en Europe, pas loin des premiers. Hein.
L'histoire fait semblant d'admettre des erreurs que la morale commune ne conçoit pas. Ainsi, 5 ans après le terrible bombardement de Royan, Frédéric Potcher et ses invités peuvent deviser de l'avenir de cette morte cité atlantique, de cette table rase architecturale sur laquelle on construira la ville balnéaire rêvée des années 60. Dans la nuit du 4 au 5 janvier 45, en effet, Royan était détruite par un bombardement anglais. Il faut dire que Royan, situé à l'embouchure de la Gironde en face de la pointe de Grave, était devenu depuis septembre 1944, et pour des raisons stratégiques évidentes, et alors que les cités voisines de Saintes, d'Angoulême ou de Saint-Jean-d'Angély se libéraient de l'occupant, un réduit allemand. Une de ces poches de l'Atlantique qui ne tomberont qu'avec le Reich. Tandis que les balles de la libération égayaient jusqu'au moindre village de Charente-Maritime, à Royan, comme à Saint-Nazaire, ou à Lorient, à La Rochelle, on vit encore à l'heure allemande, à la radio française. Maurice Schumann le sait, nous sommes juste avant Noël 1944.
Allô, La Rochelle assiégée. Allô, La Rochelle, pas encore libre, mais déjà victorieuse. Allô, Charles le lauréat, mon ami fidèle et lointain, allô. Vous m'entendez, n'est-ce pas? L'ennemi n'est plus à Strasbourg, l'ennemi est encore à La Rochelle. Paradoxe géographique sans doute, mais qui ne nous importe guère. Ce qui nous importe, c'est que les derniers occupés de France sentent la patrie tendue vers eux. Comme il doit être étrange d'entendre leurs bottes déjà vaincues, alourdies, remplies, ralenties par la défaite, marteler le pavé comme broyait il n'y a pas si longtemps leur insolence. Songez-y, c'est un rare privilège que d'être les occupés vainqueurs. Car la voix qui vous parle aujourd'hui est encore assombrie par la présence maudite, mais elle ne vous dit plus « Un jour, bientôt, espérance, vous verrez !» Elle vous dit « Aujourd'hui, Moscou s'apprête à recevoir le premier résistant de France, comme Paris hier a reçu le premier résistant d'Angleterre, et recevra demain le premier résistant d'Amérique. » Elle vous dit « Non pas même, vous serez délivré, mais vous êtes... » le membre captif d'un pays déjà restauré dans toute sa grandeur, avant même d'être restauré dans toute son indépendance, elle vous dit non pas porter la tête haute, Mais comme vous avez raison de porter la tête haute.
Si l'armée allemande a pu si facilement se barricader à Royan, mais aussi en face, sur la pointe de Grave ou à La Rochelle et à Oléron, c'est parce que quelques années plus tôt, elle avait conçu ce mur de l'Atlantique qui devait la protéger des forces alliées. Albert Bricout a vu construire le mur, il était résistant dans la poche de Royan.
Comment avez-vous vu cette poche se former ?
Ah ben là, quand on a la... ça s'est fait, c'est pas nous, c'est les Allemands qui ont préparé leur ligne de défense. Ils sont venus avec des officiers supérieurs et puis les cartes d'état-major, ils ont fait tous les tracés. Il y a même des endroits où il y a une deuxième ligne de défense entre la Tremplade et ici, que les gens connaissent même pas, les blocos. Parce que c'était une ligne en secours, c'était pour que les chars ne puissent pas passer par le pont de la mer et ne puissent pas passer par Saint-Augustin. Ce qui fait qu'il y avait une ligne de défense de blocos tout en travers jusqu'à la Seude. Alors... Et après, il y avait une deuxième ligne à fond d'eau, où il y avait les tourales et tout ça. Ben, ça s'est fait malgré tout. D'abord, ils ont réquisitionné des gens. On a commencé par aller garder le câble téléphonique sur la route de Rochefort. Bon, après, on a été encorvé à battre des pins pour mettre des asperges à Rommel sur la plage. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Parce que tout ça, c'était fait à la main, hein.
C'est ce qu'on appelle la constitution du mur de l'Atlantique.
Voilà, c'est la constitution du mur de l'Atlantique. Et après, ils ont mis ces choses. Après, ils ont mis des fils de fer barbelés. Ils ont mis des anciens portiques en béton de la ligne Maginot. Il y a eu toutes sortes de choses. Et des mines accrochées dans tous les sens, quoi.
En face, Gérard Jungling était alors jeune combattant de la 8e compagnie allemande sous le commandement du capitaine Kerber.
Une fois arrivé à La Rochelle, comme partout ailleurs, on a pu rassembler pas mal de bonhommes. Et on nous a donné ordre de nous déplacer en direction de Royan. Nous autres, on s'est demandé pourquoi. Et on était motorisés, mais après, quand nous sommes revenus de Normandie, on n'était plus motorisés, on n'avait même pas des vélos. On était à pied. Nous avons trouvé les routiers français avec la gaz jeune. Il nous a emmenés à Royan jusqu'à la Couba. On devait être là.
Vous attendiez quoi ?
Je me suis toujours demandé quoi. Alors les Américains sont venus avec leurs quadrimoteurs et des mosquitos, de temps en temps. Ils nous ont un peu rafraîchi notre morale, parce que la morale était basse quand ils arrivent, forcément. Et au mois d'août après, on a reçu ordre de la Coupe de nous déplacer à Royan.
Ben, c'est-à-dire que nous, on était très occupés. Hein. Royan est une ville, c'était une ville sur la côte, à l'embouchure de l'Estuaire. Donc,
Guibineau.
C'était une ville où il y avait beaucoup de troupes allemandes. Ben, ils y étaient là, ils y sont restés. On les a vus ni partir ni rien. C'est resté comme c'était. Simplement, ben, petit à petit, tout s'est fermé autour. Et en septembre, on a été dans une poche complètement fermée. Personne ne passait. Et il n'y avait pas de courrier, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas d'électricité. Enfin, c'était vraiment la... Petit à petit, hein, ça s'est fait. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu. Mais tout s'est coupé, puisqu'on s'est retrouvé. Par contre, il y avait des liaisons. On avait toujours les cartes d'identité, les cartes de rationnement qui nous venaient de la zone libre.
Maurice de Gandillac.
Alors, j'ai vécu en effet une partie de mon temps dans Royan avant-guerre, mais surtout, j'ai vu mes parents pris à la nasse, n'est-ce pas, pris enfermés à Royan au moment même où nous nous croyions libérés, où nous étions libérés. Je ne les avais pas revus depuis 2 ans. Nous correspondions régulièrement, mais je ne pouvais plus y aller parce que c'était une zone interdite. C'était une situation très étrange dont nous avons eu des échos après quand ont été successivement libérés en vertu de certains accords, de certains armistices locaux. D'abord mon père, qui avait une maladie de cœur, et ma mère ensuite, qui sont revenus et qui ont été coupés alors complètement de Royan. Ils n'avaient plus aucune espèce de nouvelles.
Et plus moyen d'en sortir, plus moyen d'y entrer.
Pierre Lys.
Sauf à l'occasion de trêves. Et ces trêves existaient, et je ne peux pas dire que je suis l'auteur de cette décision, mais j'avais pensé qu'il faudrait évacuer certaines personnes de la poche Et ces trêves ont existé jusqu'à la libération de Royan. Et j'entrais dans Royan avec l'accord des Allemands pour chercher des vieillards, des personnes dans la peine, des blessés, de grands malades. Moi, je faisais des évacuations toutes les 3 semaines, tous les mois, à la volonté des Allemands. J'entrais dans Royan, protégé par eux, avec des camions, je chargeais mes gars. En route, je les faisais passer de l'autre côté.
La brume descend et le vent gémit pour fuir le présent. Je n'ai qu'un ami, corporeau souvenir, vieux coffre de chêne. Voici revenir tous mes jours heureux dans un médaillon au bout d'une chaîne. La vieille maison où nous étions deux, un brin de muguet, début d'aventure.
Journal du père de Maurice de Gandillac.
Jeudi 26 octobre, emporté Stendhal et Montaigne. Train à midi, jeunesse des deux sexes avec Croix-Rouge, serviable et secourable, pas de bousculade. Distribution de gâteaux aux enfants, il est midi, les Allemands vont et viennent. À 14h30, le train siffle, il devait partir à 9h. Distribution de potage, à 16h45, le train démarre. À Saujon, émotion, les FFI. La jolie religieuse, distribution de petits pains blancs, émotion de revoir le gazouillis renaître sur des lèvres virginales dans une cabine téléphonique. Téléphonage à Cognac, nouvelle de Maurice.
Mon Dieu que j'ai mal.
Il y avait pendant ce temps-là à Royan une municipalité avec maire, adjoint, conseillers municipaux, et ils comprenaient bien qu'il fallait évacuer un certain nombre et une certaine qualité de personnes. Mais seulement ces gens ne voulaient pas partir. Ils ne voulaient pas partir, préférant d'ailleurs de ne pas prendre de carte d'alimentation, ce qui fait qu'on ignorait s'ils restaient là ou s'ils étaient partis, et que personne ne voulait dire s'ils étaient là ou s'ils n'étaient pas là. Ça expliquera beaucoup de choses pour la suite. Alors, on réussissait à faire marcher de Saujon à Royan en remettant en place les rails. On réussissait à faire reculer un train de voyageurs, et à midi, moi j'avais entré des camions préalablement, et à midi, nous prenions les réfugiés et nous les mettions dans ce train, de façon à les amener sur Saintes, et à Saintes se faisait la dispersion dans les communes d'accueil de la Charente-Maritime libérée, ou même parfois de beaucoup plus loin.
Appel à la population. Royan est en état de siège. La situation alimentaire risque d'empirer à bref délai. J'invite instamment toutes les personnes dont la présence n'est pas indispensable à quitter la ville immédiatement. J'espère que les intéressés comprendront l'importance de cet appel lancé aussi bien dans leur intérêt personnel que dans celui de leurs compatriotes qui ne doivent ou ne peuvent pas évacuer. Royan, le 12 septembre 1944, le maire M. Lanterès.
Guy Binot.
Personne ne voulait quitter. C'était quand même délicat de partir. Bon, moi, il se trouve que mes parents avaient loué un appartement à Paris. Bon, on ne savait pas du tout s'il était occupé ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, on était 4. Il y avait ma mère, mes grands-parents et moi. Mes grands-parents ne voulaient pas quitter du tout. Mon grand-père voulait rester. Et même quand on a reçu l'ordre d'évacuation, il ne voulait pas partir parce qu'il y avait la peur du vol, du pillage. Les gens étaient chez eux. Bon, mon grand-père était âgé déjà. Il ne voulait pas partir. En règle générale, les Royanais ne voulaient pas partir. C'est ce qui n'a pas été tellement compris, d'ailleurs.
Et un beau jour, on nous a dit, voilà, c'est la poche de Royan. Il faut qu'on essaye de sortir en direction de Saujon.
Gérard Jungling.
Qu'est-ce qu'on va manger l'hiver? Alors, nous sommes partis en direction de Saujon. On arrive jusqu'à Saujon, et après, la route était barrée. On ne pouvait pas aller plus loin. Les forces françaises à l'intérieur, ils étaient là.
Yves-Henri Anglade.
Les troupes FFI et les maquis sont remontées des Pyrénées, de Gascogne, de Dordogne, sont remontées en libérant toutes ces villes pas loin de la côte, mais arrivés à Saintes, qu'ils ont libéré, là, ils ont été arrêtés. L'armement, le nombre de soldats allemands le long des côtes était suffisant pour les contenir. Ce qui fait qu'il est arrivé la fin de septembre 1944, où là alors les FFI ont été bloqués et il n'y a pas eu d'attaque de Royan.
Arrivé sur place, nous avons appris que les Allemands étaient là et faisaient de la résistance sur la poste de Royan ainsi que sur la Rochelle. Et notre mission, au départ, était de les contenir parce qu'ils faisaient des incursions à l'intérieur du pays pour essayer de repartir en Allemagne.
Raymond
Il fallait
Imbert.
Les laisser là, dans leur poche, et si possible, reconquérir la poche.
Mais il est évident que les maquis qui montaient et les FFI étaient quand même des combattants démunis, en galoche et en pantalon déchiré, mal armés. Très mal armés, et ils ont fait un très gros travail quand même, mais pas suffisant pour lutter contre cette occupation allemande.
Vous savez, les maquisards avec le cœur avaient eux, mais la science de la guerre, ils ne l'avaient pas. Et vous savez, il y avait une chose que les maquisards avaient compris, attendre d'avoir les forces nécessaires, parce que nous, avec des fusils, nous ne pouvions rien contre les canons que nous voyions pointés à Saint-Georges-de-Didonne. Le château de Saint-Georges-de-Didonne était truffé de grosses armes, d'armes d'artillerie.
Pour fédérer ces soldats de l'an 5 de la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle va nommer un des premiers militaires à s'être rallié à la France libre, le général Edgar de Larmina. Il aura en charge tout le front de l'Atlantique, de l'Orient à la pointe de Grave. Sous ses ordres, le colonel Adeline devra coordonner les FFRY, les forces françaises de Royan. Il a besoin de renseignements pour les lui apporter. Des résistants restés dans la place, sur ordre, passent régulièrement les lignes de défense allemandes. Aristide Augereau est un de ces résistants. Pris par les Allemands, il sera condamné à mort avec deux de ses compagnons en décembre 1944. Quel était votre surnom dans la résistance ?
C'était Chabichou. J'étais dans le service de renseignement jusqu'à mon arrestation. Alors, quand le secteur de Sainte-Saujean, tout le nord de la Seudre, a été libéré, au mois de septembre 1944, j'étais en liaison avec le colonel Adeline, le deuxième bureau FRY, qui se trouvait à Saintes.
Force française, résistance Royan.
Royan, c'est ça. Voilà. Alors de là, je faisais la liaison Royan-Sainte en traversant les champs de mines à chaque fois que je devais faire le passage.
Qu'est-ce que vous portiez comme renseignement au colonel Adeline ?
Tout l'armement et le déplacement de l'armée allemande, tout ce qui était fortifié après coup, je devais le noter et le transporter à Adeline.
Que vous demandait-on en dehors de la poche de Royan ? C'est-à-dire, les organisations de résistance demandaient quoi aux résistants qui étaient enfermés dans cette poche ?
D'abord, tous les mouvements de bateaux dans les sphères de la Gironde. Ça, c'était très important. Les bateaux, les rencontres sous-marins éventuels, les bateaux, le trafic dans les ports. Et pour La Rochelle, c'était une des premières bases sous-marines allemandes en France. C'était très important, ces mouvements de navires ennemis. Également, des bateaux commerciaux qui descendaient à Bordeaux. Il est évident que ça comptait en premier. Puis après, on nous a demandé des renseignements sur l'équipement des forces allemandes en tank, char d'assaut et en avion.
Ils en avaient peu ?
Ils n'en avaient pas du tout. Ni avion, ni char d'assaut. Ils avaient un seul avion qui venait tous les vendredis, un petit fuselet, un petit avion qui venait, soi-disant, porter le courrier, ramener le courrier. Il apportait tout autre chose aussi, des produits pharmaceutiques. Il a même transporté des mines. des mines nouvelles, mais ça ne s'est produit qu'une seule fois.
Quelle était le moral des troupes allemandes à ce moment-là ?
À ce moment-là, très bon. Là, à ce moment, c'était très bon, parce qu'on avait des officiers et des sous-officiers qui nous encadraient, qui venaient de Russie. C'était des blessés, des officiers, des sous-officiers qui étaient blessés, qui venaient de Russie. Alors eux, vous savez...
Ils avaient connu autre chose.
Ils avaient connu autre chose. Et surtout, ils se débrouillaient pour pouvoir manger. Alors, chaque fois qu'on sortait, c'était pour récupérer du blé, de la farine, et parce qu'il fallait manger de la bétail. Mais après, ils ont laissé ça. Ils récupèrent sur du vélo. Je me suis toujours demandé ce qu'on voulait faire avec les vélos en Orient.
Nous n'avons pas le droit d'oublier que la lutte n'est pas terminée, qu'elle ne peut l'être avant que le dernier germe du fascisme fauteur de guerre ait été écrasé, avant que les 3 millions des nôtres, prisonniers, déportés civils et politiques, aient retrouvé leur foyer. Il faut aider l'armée française, dont nous saluons la glorieuse victoire d'Alsace, à participer toujours plus largement à la bataille. La France n'a pas le droit d'arriver les mains vides à la conférence de la paix. Il faut que l'armée se sente entourée de la chaude sollicitude de toute la nation. Il faut penser aux FFI qui se battent, souvent mal habillés, sur le front de l'Atlantique. Il faut organiser le colis de Noël aux combattants et aux prisonniers. Donne, peuple de France, donne des lainages, des friandises, de l'argent, des chaussettes, des chaussures à ceux qui quêteront pour le colis de Noël. Donne pour ton armée qui se bat.
Dès que des gens étaient évacués, ils le savaient, puisqu'il avait fallu leur fournir le nom, le prénom, les adresses. Ils pillaient allègrement les maisons vides et ils expédiaient par bateau tout ce qui avait de la valeur comme meubles sur l'Espagne.
Pierre Lys.
C'était un trafic qui se faisait. Est-ce que c'était un trafic à l'échelon des soldats ? Était-ce un trafic organisé par les chefs ? Ça, je ne vous le dirai pas, je ne le sais pas.
Moi, j'en ai vu. J'en ai vu, hein.
Les Espagnols apportaient
les
des
vivres. Les Espagnols venaient, ils étaient souvent guidés parce que tout était miné. Il y avait un passage, hein, un passage libre dans l'estuaire. Les petits bateaux espagnols venaient, remettaient leur cargaison de vivres. Et évidemment, les tableaux, toutes les pièces d'art, toutes les pièces valant quelque chose étaient embarquées. J'ai entendu parler de deux personnes de Saint-Palais, dont une que je connais très bien, qui quelques années après a retrouvé sa salle à manger chez un antiquaire espagnol.
Ça, je ne peux pas vous le dire qu'il y avait de trafic, mais il y en avait certainement. Parce que jusqu'au mois de mars, rien ne manquait, vous savez. Il y avait les restrictions sur les pains et tout ça. La viande, ils se débrouillaient, comprenez-vous, je ne sais pas comment ça s'est passé. Des cognacs, il y en avait... Tous les fins de mois, il y avait le cognac, hein, et des cigarettes, je ne sais pas où ça venait, hein. C'était incroyable. Hein.
Wenn mal mein Herz unglücklich liegt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt. Dann denk ich immer, ach, alles ist aus, ich bin so allein.
En décembre 1944, l'attaque alliée baptisée Opération Indépendance semble imminente. Mais la contre-attaque allemande dans les Ardennes oblige les blindés de Leclerc à combattre plus au nord. Royan attendra. Soudain, dans la nuit du 4 au 5 janvier 1945,
personne n'était au courant. Nous, on a cru que c'était les Allemands qui venaient, qu'on a entendu passer, je ne sais pas moi, 500 ou 600 avions.
Colonel Tesser.
Au-dessus de Cognac. Il y en a deux qui sont rentrés dedans, mais ça, on ne savait pas qu'ils étaient rentrés dedans. On a vu des parachutes, on s'est dit, ça y est, on est attaqué. Alors, tout le monde a commencé à se mettre en état de défense. Vous voyez, personne n'était au courant.
La nuit, tout d'un coup, on attend des avions qui passent, mais pas haut, hein, rasé. Tiens, il n'y a pas de courrier qui arrive aujourd'hui, qui est le commandant qui habite juste en face, dans une maison à Bernon. Il n'y a pas de courrier, il m'a dit. J'ai dit non, il n'est pas prévu. Alors il téléphone en Royan. Non, il n'y a pas de courrier. Et tout d'un coup, les arbres de Noël dans le ciel. Plein, 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 éclairés. Bon,
dit, allez, allez, dépêchez-vous les gars, armez-vous, tout. Ce jour-là, il y avait un vent du nord, au nord-est, glacial, les ciels étaient clairs, incroyables, et des arbres de Noël, hein? Ah ben croyez-moi. On a pris nos affaires, on a galopé, on avait à peu près 1 kilomètre à faire jusqu'à la ligne de défense entre Bernon et Pousseau. Nous sommes courus là-bas, et quand je suis arrivé à peut-être à 200 mètres de la ligne de défense, il y a une bombe qui a tombé à 50 mètres devant moi, dans un champ de vigne. Mais je suis allé voir après, on aurait pu mettre une maison dedans. Ça a tout tombé sur rien.
C'était de nuit, le soir, mais tellement éclairé, c'était magnifique, c'était splendide. À part qu'à la suite, on a vu ce qui restait de Royan.
Bon, j'ai été surpris d'entendre ce qu'on appelait la sirène de Montrocher. C'était une énorme sirène à bras que les Allemands avaient installée dans une villa qui s'appelait Montrocher et qui était à 200 mètres de chez moi.
Yvan Riandade.
Elle a sonné par 3 fois, ce qui veut dire que l'alerte est très importante. Effectivement, nous avons entendu un ronronnement, un vrombissement assez fort, les vents ne portant pas, on ne s'est pas rendu compte de l'importance des avions qui passaient. De même qu'au début du bombardement, que nous pouvions voir sur une partie de mon petit pays là, élevé, on a vu des rougeoiements, des nuages qui s'en allaient. Mais franchement, on ne pensait pas que c'était Royan. Le vent nous a beaucoup trompés là. C'est quelqu'un qui est venu en vitesse chez nous dire « J'ai ma femme et mes 2 enfants qui sont restés hier soir à Royan. Venez vite, on va essayer de les sauver, d'une part. » Et d'autre part, nous étions, je ne sais pas moi, 10 à contempler ça. 2 Allemands sont descendus à toute pompe en vélo en nous criant « Royan, boum, boum !» Alors là, bon, on était fixés.
Il était quelle heure ?
5 heures.
Quand j'ai entendu tout le bruit, je me dis, je suis sorti sur les marches, là, et la bombe est tombée au fond du jardin, et moi j'ai été la rejoindre, hein. Croyez-moi, j'ai volé.
Jean Pelé.
Je ne me suis pas rendu compte. Je ne sais pas combien, je crois qu'ils avaient annoncé 340 avions, là, le premier groupe, mais je vous assure, ça faisait vraiment du bruit. Hein.
Vous vous attendiez à cela
Mais non, pas du tout. Le soir, je suis passé voir chez ma mère, là, en débauchant, parce que j'étais à la police, quoi. Et en passant, comme ma femme et mes gosses étaient évacués, j'étais tout seul, là. Alors, je m'arrête là-bas pour la... Ma mère me dit, reste dans là, tu passes la nuit avec nous. Et non, ils sont tellement durs avec les principes, là. Je préfère m'en aller. Et ce que j'ai gagné, hein, mais eux, ils y sont tous restés. Ma mère, mon frère, sa femme, leur gosse et une autre personne qui était chez eux là, ce soir-là. Quand c'était une maison avec un étage, aussi haut qu'ici à peu près, eh bien, il y avait un trou de 3 mètres hein, à la place.
Dans un premier temps, 217 bombardiers Lancaster larguent leur cargaison sur Royan. Mais ce n'est pas fini. 1 heure et demie plus tard, une deuxième vague approche. Yves-Henri Anglade.
Alors là, ça nous a fixé. J'ai créé 2 équipes tout de suite de 6 bonhommes, avec de quoi boire, avec la carte d'identité, 1 ou 2 falots. Et nous nous sommes précipités en vélo. La première passe de bombardement s'achevait. Nous sommes restés cachés derrière un abri de maison. Et nous avons vu la dernière partie de ce bombardement, du premier bombardement. Nous avons essayé, aussitôt passés les avions, Nous avons essayé de rentrer dans les... dans cette espèce de chantier épouvantable qui brûlait, qui s'effondrait. C'était dantesque, indescriptible. Un brasier de 2 kilomètres de rayon. C'est épouvantable. Et ça faisait un tel bruit, tous ces écroulements, tous ces crépitements, qu'on ne pouvait pas entendre les victimes emmurées, par exemple. Alors nous avons commencé à fouiller un peu les décombres, toujours entraînés par ce monsieur qui cherchait sa dame. Et à l'entrée de Royan, du côté du marché, la première chose qu'on a vue, ce sont 2 Allemands, en chemise avec leur capote par-dessus, 2 Allemands morts, étendus par terre, sur le dos, les têtes écrasées. Il y avait un peu d'eau qui passait sous les corps, qui entraînait un filet de sang. Bref, bon, on a mis quelques pierres, on a mis un bout de bois dans le milieu et on est reparti. Puis, on a entendu un vrombissement. Alors là, en retrait et accouru à l'abri, vite, 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 c'était la deuxième. Alors là, à peu près sur la même cible, à peu près les mêmes points, c'est-à-dire tout le centre de Royan et le port.
Et là, vous l'avez vu, vous étiez là?
Là, oui, on était à 50 ou 60 mètres des premières bombes. Là ça descendait, là. C'était terrible. Et on ne faisait que de penser aux vivants qui étaient en face, aux habitants, à ceux qui n'avaient pas été évacués, à ceux qui se cachaient clandestinement. Évidemment, on a laissé passer ce bombardement, on s'est précipité à nouveau, et là a commencé les secours. C'était extrêmement difficile. C'était un tas de débris sur 3 ou 4 mètres de haut, avec des planches, des bouts de bois, de la ferraille, et des milliers de ronds de fils électriques. Fil électrique, ça c'est épouvantable. Hein.
Pourquoi?
Et puis ça fait des espèces de grands ressorts qui se baladent partout et qui vous empêchent de passer. On s'empêtre dedans, on ne peut pas en sortir. Bref, nous avons sorti plusieurs blessés, notamment une femme. C'est moi qui l'ai trouvée. J'ai vu dans les décombres une touffe de cheveux, tout noir, qui passait. Juste la touffe de cheveux. À côté d'un feu qui faisait presque le demi-cercle. Et j'ai dégagé, j'ai vu un visage de femme et le buste. Le reste était encore dans les décombres. J'ai vu qu'elle était encore en vie, elle remet les lèvres, les yeux, ne parlait pas encore. Elle était en chemise de nuit et c'est certainement le feu qui l'entourait, qui l'a protégée. Parce qu'il y avait quand même moins 4 ou moins 5 dehors. Il faisait pas chaud. Alors vous me direz qu'avec tous les brasiers, ça suffisait, on n'avait pas froid. Hein.
Ah, de la colère, il y en a eu. Je vous assure que il fallait se faire attention le lendemain.
Jean Pelé.
Surtout quand on a vu défiler les Allemands, là, ben, ça mettait à... Mais on était en colère surtout parce que l'aviation, c'était l'aviation anglaise qui avait bombardé, hein, c'était pas les avions allemands. Oh, oui, là. C'était horrible, hein, on peut pas l'expliquer. Hein.
À 5 heures du matin, les seuls sauveteurs qui étaient sur les décombres pour chercher des victimes étaient des résistants. Soit le petit groupe de Saint-Georges, soit le petit groupe vers Montcoin, là, Vaux-Saint-Sulpice, soit de l'autre côté vers la mer. Il n'y a eu que des résistants. Nous n'avons pas vu, après les deux passages, après les deux raids, nous n'avons pas vu plus de 25 à 30 personnes sur cet immense tas de décombres. Ça a duré 3 jours. Je dormais plus. Et je ne me déchaussais plus. Sans ça, je ne me serais jamais rechaussé. J'avais des chaussures, c'est un détail stupide. J'avais des chaussures trop petites, des gros godillots trop petits. Et à force de marcher dans ces, dans, notamment descendre les cratères et les remonter, les doigts, je ne sais pas, c'était abîmé. Et j'en ai ressenti les dégâts pendant des années. Il y a eu beaucoup pire que ça, parce que souvent, on risquait de tomber dans des trous où il y avait des paquets de braises, tout un restant de brasier. Alors là, on risquait de se brûler. Il fallait faire très attention avec les planches et leurs clous. Il fallait faire très attention aux murs. Il restait quelques murs. La plupart s'écroulaient petit à petit.
Pierre Lys.
La seule chose qu'on a oubliée, c'est qu'il fallait bombarder les alentours de Royan, mais pas bombarder Royan. Or, dans Royan, et de leur faute, restaient des centaines de personnes qui n'avaient pas voulu partir pour protéger le peu de choses qui leur restaient. Alors les Allemands ont pris peur. Ils ont pris peur parce que pour eux, comment dirais-je, militaires de combat habitués, ils savent très bien que la tactique d'une attaque, c'est le pilonnage des objectifs et ensuite l'attaque. Le pilonnage s'est fait, mais l'attaque n'est pas venue.
L'inutile bombardement, comme on peut le lire aujourd'hui sur le monument aux morts de Royan, a fait, on ne sait pas exactement, 500 victimes environ. Dans la douleur, la libération se fait toujours attendre. Pendant 3 mois, jusqu'au printemps, Royan, en ruine, vit une seconde drôle de guerre. Elle sait qu'elle sera libérée, mais elle ne sait pas quand. De part et d'autre de la ligne de front, chacun s'y prépare. Yves-Henri Anglade.
La résistance s'est regroupée, car elle avait été très désorganisée par le bombardement. La résistance a quand même eu pas mal à envisager, pas mal d'actions. Notamment la coupure, la destruction des communications entre le Royan allemand occupé et la forêt de la Courbe avec tous ses blocos en bordure de mer.
Certes, il n'y a rien de spectaculaire sur ce front sans histoire, éclipsé par celui des Ardennes, d'Alsace ou de Russie. Mais tout de même, chaque jour, des hommes de chez nous se battent, souffrent et meurent. Chaque nuit, c'est une patrouille qui part. Chaque jour, c'est un bombardement qui s'abat. Il faut tenir, malgré la pluie, malgré le froid, malgré l'insuffisance de l'équipement, la pénurie du matériel et des munitions. Il faut tenir devant un ennemi toujours agressif, sans cesse menaçant, un ennemi qui sait combattre, qui pose des mines, multiplie les obstacles et se fortifie chaque jour. Drôle de guerre, dit-on en souriant. Mais le sourire de certains se serait figé s'ils avaient su, on peut le révéler maintenant, que pendant 3 mois, l'un des points les plus névralgiques du secteur a été tenu par 40 hommes, armés seulement pour défendre 1500 mètres de terrain de 3 fusils mitrailleurs.
J'ai quitté les unités combattantes et vers le 15 mars,
Raymond Humbert.
J'ai été désigné comme. On m'a envoyé à l'état-major au premier bureau. Pour être officier d'état civil. Vous voyez ce que ça veut dire?
Ça veut dire?
Ça veut dire qu'il va y avoir des morts et il va falloir mettre tout le monde en règle avec la législation civile. Et comme j'étais instituteur à l'origine, on a pensé que peut-être je savais faire ça. Un matin, lorsque le colonel Adeline nous a réunis, il m'a appris, c'était quelques jours avant le 15 avril, le 9 ou le 10 avril. Il m'a dit, Humbert, il va falloir me trouver 400 bières parce qu'il va se passer des choses. Voilà. Alors, naturellement, j'ai pensé que l'attaque n'était pas très, très loin. D'autant que nous venions d'apprendre que un bataillon de la 2e DB venait d'arriver.
Nous avons été plusieurs troupes à arriver à des dates différentes.
Jacques Morin.
Les premiers arrivés sont arrivés le 3 avril. C'était les troupes du groupement tactique Rémy qui se sont installées en face de La Rochelle. Puis est arrivé le groupement tactique Duo qui est arrivé le 7 et le surlendemain, le 9, nous sommes arrivés en tant que groupement tactique de l'Anglade. sur le moment, nous n'avions aucune information. Nous savions simplement que les Allemands étaient rassemblés dans le territoire de la presqu'île d'Arvers, entourés par les forces françaises de l'intérieur, les FFI, qui n'ayant que très peu de moyens, s'étaient contentés, ils ne pouvaient pas faire autrement, s'étaient contentés de les contenir et d'arrêter toutes leurs attaques.
L'heure de l'ultime assaut contre l'Allemagne a sonné. Partout où se trouve un retranchement nazi, l'attaque est déclenchée. Traversant Sainte, nos troupes se dirigent vers Royan. La Wehrmacht en déroute a laissé sur la côte atlantique des poches qui sont comme autant d'abcès Feldgrau qu'il va falloir crever. Les chars du général Leclerc et les fantassins du général Delarmina vont s'y employer.
C'est la grande déception des gens de la division Leclerc, et notamment du général Leclerc, d'avoir été choisi pour venir libérer la poche de Royan. Mais il y avait une raison à cela, c'est que nous nous trouvions au repos dans l'Indre. À cette époque-là, nous n'étions plus en Alsace. Le général de Gaulle l'avait dit le 18 octobre auparavant, la poche de Royan sera libérée par des troupes françaises. C'était même pratiquement la dernière poche importante à libérer. De Gaulle tenait essentiellement à libérer au moins une poche pour pouvoir s'asseoir à la table des vainqueurs en même temps que les autres, en disant « nous avons fait ça ». Le général Leclerc était extrêmement réticent de venir participer à la bataille de Royan, tout simplement parce qu'il commandait une division blindée qui est faite pour faire de la manœuvre en alliant la puissance de feu, la vitesse, etc. Alors que là, à Royan, il allait manifestement faire le siège d'une forteresse, c'est-à-dire essentiellement statique.
Nous sommes au milieu d'un troupeau invraisemblable de tanks, de jeeps, de commande-cars qui se préparent à attaquer les lignes allemandes situées à 150 mètres de nous. Nous sommes à côté d'un commande-car. Les hommes sont couverts de poussière, de sueur, et nous allons les questionner rapidement. Dites-moi, quel est le rôle de ce commande-car ?
Ce commande-car ? C'est un commande-car de commandement.
Un commande-car de commandement. Et vous êtes en liaison avec quoi ici ?
Avec le groupement tactique.
Et maintenant, nous allons nous diriger vers un capitaine qui était planché sur sa jeep. Dites-moi, mon capitaine, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'opération qui va avoir lieu tout à l'heure ? Non, vous ne pouvez pas m'expliquer ça, je comprends ça. Alors, pouvez-vous nous dire...
Quel est le nom de votre char, mon commandant ?
Je n'ai pas de char.
Vous êtes sur une jeep maintenant.
Vous ferez votre interview tout à l'heure. Oui, venez.
Vous voyez, on nous kidnappe le commandant.
Nous sommes les vendredi 13 avril 1945.
Gérard Jungling.
Comme à ce moment-là, il y avait assez de mouvements côté français. Tous les nuits, on attendait des camions GMC, des chars d'assaut, on attendait des chenilles, on attendait tout ça. Vous savez, clair de lune la nuit, et pas. Hein, la nuit, on attend loin. Mais on ne voyait jamais de phares, ni rien du tout. Alors les Français, déjà fin des mois de mars, ils installaient des batteries, tout ça, des dépôts de munitions. Ils faisaient avancer leurs troupes, tout ça, et c'était normal. Alors nous autres, on se dit, attention, il y a quelque chose qui n'est pas clair là.
Nous avons trouvé, dans un petit village de la Charente-Maritime, un bataillon de marche antillais. Et c'est avec un réel plaisir que nous avons voulu lui consacrer quelques instants. Vous entendez en ce moment un quatuor vocal qui interprète un air de cette terre lointaine. Et vous pouvez certainement constater combien chez ces hommes existe un rythme profond. Nous ne sommes pas ici pour parler musique. Sachez seulement que ces Antillais vont dans quelques heures attaquer les positions allemandes du front de Royan. Le calme règne, ils sont sûrs d'eux, sûrs de leurs réflexes, et c'est pourquoi maintenant ils s'échappent de ce qui les attend tout à l'heure, c'est-à-dire la lutte pour la vie, pour le droit de vie. Peut-être y a-t-il aussi dans leur esprit l'espoir d'un prompt retour, mais en attendant, ils chantent et écoutez-les.
En avril 1945, tout est parti d'un seul coup. La Gironde, la pointe de Grave, d'un côté, Royan de l'autre, tout a été attaqué en même temps et par des troupes qui n'étaient plus des troupes de fortune, mais qui étaient des troupes connaissant l'art du combat, etc. Autant qu'on puisse parler d'art pour un combat, mais enfin, ça existe quand même. C'était des gens qui savaient se battre.
Et maintenant, nous allons nous adresser au capitaine qui commande cette compagnie.
Dites-moi, mon capitaine, qu'est-ce que vous pensez de vos hommes en tant que musiciens tout d'abord?
Eh bien, très souvent, ça a marché à peu près comme ceci. Ils sont très musiciens, d'ailleurs. Et nous avons d'ailleurs l'habitude des dégagements au point de vue danse, musique.
Ah, parce qu'ils dansent également. Oui, également. C'est dommage que nos auditeurs ne puissent pas les voir danser, alors. Mais dites-moi, en tant que soldat, alors, sur le plan soldat.
En tant que soldat, alors, évidemment, c'est autre chose. D'ailleurs, je suis aussi content d'eux, même plus content d'eux sur le plan militaire que sur le plan musical.
Eh bien, je vous remercie. Nous allons nous adresser maintenant à un lieutenant qui, je crois, est originaire des Antilles. Vous êtes originaire des Antilles, n'est-ce pas? Bon, écoutez, voulez-vous interviewer quelqu'un en antillais pour donner une impression à nos auditeurs de ce que peut-être cette langue? Alors, allez-y.
Voilà. Où c'est Jean Côté?
C'est Jean Guadeloupe.
C'est Jean Guadeloupe, oui. En qui ville?
Gauvert,
oui. Quel âge?
Moi, j'ai 35 ans.
Ah, mais je comprends très bien, vous lui avez demandé quel âge avait-il, hein?
Oui.
C'est ça, ah, mais oui, je suis très fort. Alors, vous avez, il y a longtemps que vous êtes en France?
Ah, ben, il y a exactement 27 jours.
27 jours?
27 jours, mais j'ai fait l'Amérique, j'ai fait l'Afrique du Nord.
L'Amérique, l'Afrique du Nord?
Oui.
Eh bien, c'est un beau voyage que vous avez fait, en effet.
Les Zouaves, soutenus par les blindés du vainqueur de Strasbourg, progressent vers un des derniers retranchements de l'envahisseur. Les nazis se doutaient-ils, lorsqu'ils vantaient le fameux mur de l'Atlantique, que certains d'entre eux devraient, pour se défendre, lui tourner le dos.
Colonel Tesser.
Alors, l'attaque a donc eu lieu, et là, il y a eu des bombardements d'abord massifs, des forteresses volantes, des maraudeurs et tout le bazar. Alors là, ça, sans discontinuer, ça a bombardé en plein jour. Tout, absolument tout. Il y a eu des vagues de 800 avions. Et par jour, il y en avait 3 ou 4. Il y a eu ça pendant plusieurs jours. Vous voyez un peu ce qu'ils ont. Alors ça, il y a des glaucoses qui se sont retournés dans l'affaire. Parce que il y avait des bombes énormes. Ils ont fait ça avec des bombes énormes. Alors ils ont bombardé Royan et la Pointe de Grave.
Gérard Jungling.
Dimanche matin, les 15 avril 1945, les Français, ils attaquent en masse, incroyable. Ils poussent dur, hein, très dur. Les chars d'assaut, ils ne pouvaient pas avancer. Ils étaient devant les champs de mines. Les bombardiers américains, ils étaient là. Ils déversaient des milliers de tonnes de bombes sur Royan. Ça continue. On voyait presque pas le soleil. Le ciel était clair. Ils envoyaient des bombes incendiaires. Ils envoyaient n'importe quelle saloperie. Hein, mais pas sur nos positions, toujours sur la ville de Royan. On n'a rien compris. Les Français, ils commencent à pousser. Les chars d'assaut, ils sont, je ne sais pas combien. Ils avancent jusqu'au champ de mine maintenant. Et tout d'un coup, vers 11h, les Français, ils s'arrêtent. Ils n'avancent plus.
Pourquoi?
On ne sait pas. Alors, vers midi peut-être, ou peut-être un peu plus tard, tout d'un coup, on pousse. On pousse dur. On voit des Halftrack encore, des chars d'assaut. Vers 16h, 17h de l'après-midi, les Français, ils poussaient très dur, là. Ah, c'était intenable, hein.
Après une préparation d'artillerie, Faubedeau, sur la route de la Tremblade, est investi.
La défense de la poche est-elle sévère de la part des Allemands?
Très dur. Très dur. Les Allemands sont très bien retranchés, très bien protégés. Il y a 200 blockhaus, il y a 200 000 mines, ils ont 100 pièces d'artillerie de fort calibre, et les bombardements, celui du 5 janvier, n'a eu aucun effet sur leur défense, et il a fallu plusieurs bombardements très ciblés, ceux-là, les 14, 15 et 16 avril, pour qu'ils consentent à se rendre.
Le 15 avril, en fin d'après-midi, la 8e compagnie du capitaine Kerber cesse le combat.
J'étais à côté du capitaine. Il m'a dit, attendez, prenez votre fusil, votre casque. Il s'est levé, il y avait 3 ou 4 sergents qui étaient là, qui étaient blessés. Les sous-sauf et quelques hommes de troupes. On ne pouvait pas loger beaucoup de gens là-dedans, parce que c'était pas plus grand que ça, vous savez, là, comme ce petit truc-là. Il s'est levé, il les a salués, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut prendre le commandement. Alors il y en avait un qui était là, un sergent-chef. Il a ramené sa grande fraise, il a dit, si on va faire une contre-attaque, et vous allez voir, on va les repousser, ils ne reviennent plus. Il a dit, je ne vais pas le savoir, ce que vous venez de dire. Je vous demande encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre les commandements? Personne n'a bougé. Il y en a un qui s'est levé, un sous-officier, il a arraché une épaulette. J'étais à côté du capitaine. Je lui ai dit, je vais te tuer. Il a dit, Jüngling, ne faites pas ça. Il est malade. Jüngling, montez là-haut. Et dites-leur, la guerre est finie. Et amenez un drapeau, j'en ai pas. Mettez votre mouchoir sur la baïonnette. Et c'est moi qui monte en haut. Et je dis, arrêtez le combat, les gars, arrêtez. C'est un ordre de Kerber et tout le monde. C'était tout de suite à la seconde. C'est incroyable. C'était comme un coup de courant qui a passé sur toute la colline. Aucun coup de fusil, rien du tout. Et les Français en bas aussi. Plus rien.
Et vous êtes rendu?
Nous sommes rendus. J'avais ma baïonnette avec mon mouchoir dessus. Il y en avait un autre, je ne sais pas d'où il est venu. Il avait un drapeau de la Croix-Rouge. Je dis, avance pas, ils vont descendre, reste avec moi ici. Ici, on ne peut pas nous tuer. Je m'en fous, la guerre est finie.
Eh bien donc, nous avons laissé les officiers à leur travail et voici maintenant quelques habitants qui viennent d'être libérés il y a quelques heures. Nous allons les interviewer tout de suite. Dites-moi, madame, vous êtes contente d'être libérée? C'est inutile de vous poser la question, d'ailleurs.
Très, très, très heureuse. Et dites aux familles Pagot que nous sommes tous en bonne santé.
Ben alors, j'espère que ce message sera entendu tout le monde. Mais dites-moi, vous êtes très content de voir arriver ici les chars, la division Leclerc, les fusiliers marins.
Oh oui, on leur sent au goût, on les embrasse.
Vous êtes contents?
Oh oui.
Vous voulez dire quelque chose?
Ma petite Ninou, mon Jacques chéri, maman, papa, tout le monde, nous sommes libérés, on est contents, tant mieux.
Eh bien, c'est très bien, madame. Vous voulez dire quelque chose?
La famille, oui.
Allez-y, madame.
Alors, famille Lacour et Rivasson, nous sommes en bonne santé. Nous sommes bien contents de voir plus ces boches.
Mais je vous assure que vous êtes vraiment en bonne santé. Et c'est fini maintenant, ils reviendront plus ici. Ah ben non, mon bras. Merci, c'est gentil. Mais ne pleurez pas, c'est terminé. Au revoir, mesdames.
Raymond Humbert.
Vers le 19 ou le 20 avril, après l'attaque qu'il y a eu lieu, j'ai été devancé par deux chars de la 2e DB et moi je suivais derrière pour aller voir, fouiller, si, est-ce qu'il restait encore des soldats allemands. Ça c'était pas mon rôle, c'est le rôle des chars dans les caves, et en ce qui me concerne, de voir s'il y avait des gens à inhumer.
Et alors, pour ce qui était de retour, vous aviez prévu 400 cercueils, est-ce qu'ils ont été, ils ont suffi, ou est-ce qu'il y en a eu moins de morts?
Alors, dès que j'en ai eu 397, j'ai prévenu les autorités militaires du colonel Adeline en lui disant, ça y est, vous savez, il y en a déjà 397. Et alors, finalement, quand on a fait le compte, ça s'est arrêté, mais quand on a fait le compte, sur la poche de Royan, hein, mais il y en avait 407.
Et les Allemands?
Et les Allemands, nous n'avons pas retrouvé des Allemands à Royan. Nous avons supposé qu'ils avaient été amenés par leur propre officier d'état civil. Il restait les maisons complètement écrasées. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le casino, l'architecture en ferraille du casino. Avant, c'était magnifique. Et là, c'était des poutres tordues, des blocs de pierre, de la terre, tout ça. Il fallait faire un chemin à travers l'avenue de la République qui donnait là-dessus. Effrayant.
C'était vraiment l'inutile, oui. Parce que je vois toute ma famille, moi, ils sont tous les quatre allongés là, dans un coin. Là.
Jean Pelé.
On ne comprend pas, quoi.
Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a voulu flambé, là. Une grosse tête qui a voulu se mettre en évidence. Parce que c'est d'abord le bombardement a été effectué par les Anglais, alors il n'avait rien à foutre, là. Quand on est bien tranquille dans une ville comme c'était, les Royanais aimaient leur ville. Ben quand on était là, on se retrouvait tous entre copains, et puis du jour au lendemain, on se trouve dans les ruines, là. Ben ça fait un drôle d'effet. Hein. Puis vraiment dans les ruines. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais bien plus jeune, il y avait un gars qui tenait les établissements de bain sur la plage de Foncillon. On était copains. Quand on débauchait le soir, on se retrouvait tous. On plongeait où est la chose, et on allait tourner sous les piles de la jetée. Là. On faisait ça tous les soirs. Là. On se tapait sur les épaules, on rigolait, on était... Et puis du jour au lendemain, tout était arrêté, tout était fini, quoi, il n'y a plus... On se retrouvait plus. Pour les vieux Royanais comme moi, c'est plus l'entroyant.
Royan n'aura pas connu les heures joyeuses qui ont suivi la libération de tant d'autres villes françaises. Nos troupes ont repris une ville. Elles n'ont pu libérer une population, mais elles ont pu, grâce à cela, éviter que des yeux français se ferment à la lumière de la délivrance. Sans doute a-t-il fallu détruire. Des ruines se sont accumulées dans Royan en flammes, mais elles se sont écroulées sur les arrière-gardes d'un envahisseur tenace. Demain, avec de nouvelles pierres, de nouveaux outils, de nouvelles équipes, c'est une France rajeunie et plus forte.
C'était l'histoire en direct, 1944-1945, la poche de Royan, avec René Besson, Pierre Lys, Maurice de Gandillac, Guy Binot, Yves-Henri Anglade, Aristide Augereau, Albert Bricou, le colonel Tesser, Raymond Imbert, Jean Pelé, Jacques Morin et Jacques Lefort.
Dans sa jeunesse, on ne peut pas oublier les lieux où on a vécu. Parce qu'une ville, un quartier, il vous est arrivé des choses à tous les coins de rue. On a rencontré une petite amie, on a été au bistrot du coin boire un coup avec des copains, là on prenait pension, là. Ouais, tout ça, c'est. Bon, alors, c'est pareil, là, dans le haut de la rue, là, il y a la rue du Printemps. Il y avait l'impasse du Printemps. Et moi, ma chambre, j'étais une vieille dame qui me logeait pour 50 francs par mois. Et ben cette impasse a disparu. Alors il reste encore sur la rue du Printemps, il reste encore des maisons d'avant-guerre qui n'ont pas été détruites. Alors je me dis, voyons, ça devait être celle qui était juste là. Oui, j'y pense encore. Ça m'arrive encore de revenir à ces choses-là. J'en parle à personne. Il faut que et vous avez beau reconstruire une ville comme ça, pour nous c'est impersonnel. On n'a plus de vie dans cette ville-là en réalité. On en a reconstruit une, c'est vrai. Mais je pense que les racines les plus profondes sont celles de la jeunesse.
Sous Royan d'aujourd'hui, il y a un fantôme de ville que vous avez dans votre tête.
C'est ça. Et que je cherche encore à imaginer. Et encore aujourd'hui, on pense à sa ville, quoi.
Une émission préparée par Aurélie Luneau, Archivina Pascal Toublanc et Rosanne Lelièvre, texte lu par Jean-Luc de Baptiste. Remerciements à Philippe Lelorin, directeur du musée de la Poche de Royan, à Yves-Henri Anglade et à l'adjudant-chef léger de l'établissement cinématographique et photographique des armées. Prise de son et mixage, Jean-Claude Gauthier, Véronique Amiot. L'histoire en direct. Une émission d'Emmanuel Laurentin, réalisée par Mehdi Eladj.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 avril 1997.